Téhéran a rejeté les allégations de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Réunion de la Ligue arabe, l'Iran réagit aux accusations. Et Israël poursuit ses crimes en Cisjordanie. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. L'Iran affirme que le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique sur son programme nucléaire pacifique n'est rien qu'un jeu politique. Le porte-parole de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, Behrouz Kamalvandi, affirme que le rapport ne contient aucun élément de fond et que l'agence ne fait que jouer à la politique avec ses fausses allégations répétées. Selon lui, le programme nucléaire pacifique de l'Iran a été le plus transparent jusqu'à présent. Il a noté que l'Iran n'acceptera pas la surveillance de ses activités nucléaires au-delà de l'accord de garantie, à moins que les parties de l'accord de 2015 ne remplissent leurs obligations et relèvent les sanctions. Le commentaire politique d'aujourd'hui est consacré à ce sujet. L'Iran a réagi aux dernières accusations portées lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe, les qualifiant de partiaux et mal informés. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que ces allégations montrent que certains gouvernements n'ont pas une bonne compréhension du cours des développements en Asie occidentale et des réalités sur le terrain. La réunion ministérielle de la Ligue arabe s'est tenue mardi au Caire, la capitale égyptienne. Dans leur communiqué final, les participants ont accusé l'Iran d'ingérence dans les affaires intérieures des États arabes. Nasser Kanani a conseillé à ces États de se concentrer sur les atrocités d'Israël contre les Palestiniens au lieu d'utiliser une rhétorique aussi creuse et répétitive. Selon le responsable, Téhéran est comme toujours prêt à engager un dialogue constructif avec ses voisins et à régler les malentendus par la diplomatie. Les forces d'occupation israéliennes ont abattu ce 7 septembre un jeune Palestinien dans le camp de réfugiés d'Al-Fara, au sud de Tubas, en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé. Younes Hassan Tayeh, 21 ans, a succombé aux suites de ses blessures d'une balle directe au cœur tirée par les soldats de l'occupation dans le camp d'Al-Fara. Les forces d'occupation israéliennes avaient pris d'assaut le camp de réfugiés, attaqué et fouillé plusieurs maisons, ce qui a abouti au déclenchement des affrontements au cours desquels des soldats israéliens ont tiré des balles réelles, des bombes sonores et de gaz lacrymogènes. L'armée israélienne mène des incursions quasi quotidiennes en Cisjordanie occupée depuis le début de l'année, au cours desquelles plusieurs Palestiniens ont été tués. Depuis le début de l'année, l'armée israélienne a tué plus de 140 Palestiniens en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, qu'Israël occupe illégalement. Les États-Unis promettent un autre programme d'aide militaire à l'Ukraine dans le cadre de la guerre en cours avec la Russie. Lloyd Austin, secrétaire américain à la Défense, a déclaré que le président Joe Biden a approuvé 675 millions de dollars d'armes supplémentaires pour l'Ukraine. Cette nouvelle aide américaine comprend notamment des systèmes de lance-roquettes, des obusiers de 105 mm, des munitions d'artillerie, ainsi que des véhicules blindés, ambulances, systèmes anti-chars, armes légères et plus encore, a détaillé Austin devant les journalistes. D'autres pays, dont l'Allemagne, devraient eux aussi annoncer dans la journée de nouvelles aides. À ce soutien militaire s'ajoute une aide de 2 milliards de dollars à l'Ukraine et à ses voisins, annoncée jeudi 8 septembre par le Département d'État américain. Elle se matérialisera sous la forme de prêts et subsides pour acheter des armes américaines en pleine contre-offensive de Kiev. Les États-Unis, premier fournisseur d'aide militaire à l'Ukraine, avaient promis en août de fournir pour 13,5 milliards de dollars d'armements divers, notamment des missiles anti-char Javelin, des pièces d'artillerie et des obus compatibles avec les systèmes de l'OTAN. Le Mali et la République de Guinée se retrouvent devant l'histoire pour lutter contre le terrorisme, a déclaré mercredi le ministre guinéen des Affaires étrangères. Porteur d'un message du président guinéen de la transition, il s'est exprimé à l'issue d'une audience accordée par le président malien, le colonel Assimi Goïta. Il a rappelé que depuis 2012, des contingents guinéens contribuent dans cette lutte contre le terrorisme au Mali. Il a précisé que très bientôt, une évolution majeure dans ce domaine sera constatée. Le diplomate guinéen a en outre déclaré « Le président m'a donc chargé de réitérer son engagement à suivre le chemin tracé par le père fondateur, Ahmad Sékou Touré, et le colonel Goïta a montré le chemin de la reconquête de la dignité africaine. » Selon lui, tout ce qui arrive au Mali arrive à la Guinée, ajoutant qu'avant la CEDEAO, Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, l'Union africaine, les Nations unies, il y a eu ce qu'on appelle le voisinage immédiat. La Guinée, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal sont des pays à voisinage immédiat, a-t-il précisé. Il a par ailleurs ajouté que le président guinéen et son homologue malien travaillent à redynamiser ces relations et les mettre au service des peuples. Il a cependant rappelé que le Mali et la Guinée ont déjà de renforcer les corridors routiers, ferroviaires et aériens. La Corée du Sud a proposé jeudi à la Corée du Nord d'organiser des discussions à propos d'une réunion des familles séparées par la guerre de Corée de 1950 à 1953, la première ouverture diplomatique directe de Séoul à l'égard de Pyongyang depuis le début du mandat du nouveau président sud-coréen. Le ministre sud-coréen de l'unification, qui est chargé des affaires intercoréennes, a effectué cette proposition lors d'un point de presse, déclarant que Séoul tiendrait compte des préférences de Pyongyang pour choisir la date, le lieu, le programme et le format des pourparlers. Des réunions familiales ont été organisées par le passé aux alentours des principaux jours fériés, principalement à l'initiative des gouvernements libéraux sud-coréens qui ont cherché à renouer le dialogue avec le Nord. La proposition de Séoul, inattendue, pourrait ne pas porter ses fruits étant donné les tensions frontalières actuelles, alors que Pyongyang a multiplié cette année les essais de missiles. En outre, cette offre intervient dans un contexte de relations intercoréennes très tendues, Pyongyang accusant Séoul d'être responsable de la récente épidémie de COVID-19 qui a frappé le pays tout en menaçant son voisin de représailles. L'Organisation iranienne de l'énergie atomique a critiqué le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique sur le programme nucléaire du pays comme politiquement motivé, affirmant qu'il ne contient rien de nouveau, rien qu'un jeu de mots servant certains objectifs politiques. Le porte-parole de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, Behrouz Kamalvandi, a déclaré jeudi que le rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique était une répétition des précédents problèmes sans fondement à des fins politiques. Le responsable iranien a déclaré que certains médias internationaux déforment et interprètent parfois les phrases que l'Agence internationale de l'énergie atomique utilise délibérément de manière vague et ambiguë et sont pleines de détails et d'ambiguïtés inutiles pour alimenter une campagne politique et médiatique creuse visant à insinuer que le programme nucléaire de la République islamique d'Iran n'est pas un programme pacifique. Le programme nucléaire pacifique de la République islamique d'Iran a été le plus transparent jusqu'à présent, a déclaré Behrouz Kamalvandi, porte-parole de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique. Il a déclaré que la République islamique d'Iran n'accepterait la vérification de ses activités nucléaires civiles au-delà de l'accord de garantie que si les parties à l'accord nucléaire de 2015, officiellement connu sous le nom de Plan global d'action conjoint, remplissent leurs obligations conformément à l'accord et lèvent les sanctions économiques contre la République islamique d'Iran. Il ne devrait pas s'attendre à ce que la République islamique d'Iran soit ouverte à des inspections au-delà de l'accord de garantie, lorsqu'ils ne remplissent pas leurs obligations et tant que leurs sanctions oppressives contre la nation iranienne se poursuivent, a souligné le porte-parole de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, Behrouz Kamalvandi. Dans son dernier rapport, l'Agence internationale de l'énergie atomique a déclaré mercredi que le stock d'uranium de l'Iran, enrichi jusqu'à 60% de pureté, a augmenté bien au-delà de la quantité suffisante pour une bombe nucléaire, si elle est encore enrichie. Les mesures de la République islamique d'Iran viennent en réponse au retrait unilatéral des États-Unis du plan global d'action conjoint en 2018, retirant Washington de l'accord de 2015, le président de l'époque des États-Unis, Donald Trump, a imposé de sévères sanctions économiques à la République islamique d'Iran dans ce qu'il a appelé une politique de pression maximale pour parvenir, selon lui, à un meilleur accord. La République islamique d'Iran a attendu un an pour voir si les autres signataires de l'accord peuvent sauvegarder ses intérêts économiques. Ne voyant aucune mesure pratique, la République islamique d'Iran a commencé à réduire ses engagements envers le plan global d'action conjoint en mai 2019 par étapes claires et annoncé à l'avance et sous la supervision des inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Le Parlement iranien a également ratifié un projet de loi obligeant le gouvernement à étendre les activités nucléaires de la République islamique d'Iran en réponse aux violations commises par la partie américaine. La République islamique d'Iran a adopté également des mesures correctives conformes au paragraphe 36 du plan global d'action conjoint, mais ces mesures sont révocables si les autres parties de l'accord respectent leur part d'obligation. la capitale autrichienne Vienne a accueilli de nombreuses séries de pourparlers depuis l'année dernière pour examiner la perspective de la restauration de l'accord de 2015 et de la suppression des sanctions illégales et injustes imposées à la République islamique d'Iran.